Éminence, vous avez beaucoup voyagé. Non seulement vous avez voyagé en France, vous avez commencé à Marseille, vous êtes originaire de Marseille. Il y a eu dans votre vie ensuite le Mali, puis retour sur la France avec Paris, Grenoble, Montpellier, Bordeaux. Mais vous avez voyagé aussi beaucoup à l'intérieur des institutions vaticanes, entre la Congrégation pour la doctrine de la foi, les migrants, la Commission pour l'unité des chrétiens. Comment est-ce que vous vivez cette itinérance ?
Longtemps, j'ai eu un sac de voyage qui était dans ma chambre. Et il me rappelait que finalement, j'avais un ministère de type apostolique, un peu comme Saint Paul, c'est-à-dire qui parcourait les routes. C'est vrai que j'ai eu des ministères qui m'ont fait souvent changer de ville. J'avais cette perception qu'il y a une unité dans tout cela. Et l'unité, c'est l'appel du Christ et la mission que le Christ vous confie. Voilà, vous êtes toujours envoyé à un peuple. Or, ce peuple peut prendre des visages différents, il s'enracine dans des terroirs différents, mais c'est le même peuple de Dieu. C'est la même expérience spirituelle, la même expérience chrétienne que je suis amené à vivre avec ses frères et sœurs dans la foi. C'est le même ministère épiscopal. Et je crois que l'unité nous est donnée par la présence du Seigneur, par son esprit et par la mission qui vous est confiée.
Vous dites que le peuple est le même pour tous, mais la mission, il y a une façon différente de vivre la mission. D'ailleurs, vous avez une devise épiscopale qui est aussi caractéristique.
Oui, ma devise, c'est pour l'Évangile, à cause de l'Évangile. C'est un passage d'ailleurs de l'Évangile de Saint Marc, où le Christ dit à ses disciples « Vous qui avez tout quitté pour moi et pour l'Évangile ». Cette phrase guide d'ailleurs mon ministère épiscopal, être témoin de l'Évangile, de la force transformante de l'Évangile dans la vie des hommes et des femmes de notre temps.
Et vous avez, dans une récente homélie, dit à vos paroissiens, à vos fidèles, « Nous n'aurons jamais fini d'accueillir ce salut apporté par le Christ et de témoigner de la force de transformation qu'il met à l'œuvre dans nos vies. » Est-ce qu'on peut vous demander, Éminence, quel témoignage vous pouvez nous partager sur cette puissance de transformation dans votre vie?
J'allais dire, c'est un peu difficile hein, de parler de transformation dans sa propre vie, mais peut-être je vais répondre à votre question en étant témoin de ce que je vois comme changement dans la vie des catéchumènes, qui en particulier se préparent au baptême. Et j'aime leur poser la question, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez rencontré le Christ, que vous lisez l'Évangile et que vous avez appris à prier? Et je suis frappé chaque année de ce qui m'est partagé, en particulier de la transformation que ces hommes, ces femmes voient s'opérer dans leur vie. Je pense à cette jeune femme coréenne qui travaillait dans le commerce international. Vous savez, pour nous, c'est l'argent qui compte avant tout, c'est la rentabilité. Nous sommes même des numéros dans notre entreprise. Et ce qui m'a frappé dans l'Évangile, c'est le regard que le Christ porte sur chacun. On est unique. Et ça, ça a changé ma vie. Ce qui me frappe, c'est que l'Évangile, la parole du Christ, c'est pas simplement un savoir. Fondamentalement, c'est une parole de vie qui vous fait entrer dans une expérience nouvelle. Et je comprends que des baptisés qui découvrent avec une fraîcheur la foi disent « Nous devenons dans le Christ des hommes nouveaux, des êtres nouveaux ». C'est là où je sens que le Christ, par l'action de son esprit, véritablement nous transforme.
Qu'est-ce que vous pouvez, vous, en tant que cardinal, nous dire à nous, chrétiens, quant à cette nouvelle évangélisation?
Je vois la situation d'un certain nombre de jeunes qui m'écrivent pour la confirmation. Et dans la lettre de demande de confirmation de ces jeunes, souvent reviennent les problèmes affectifs. Est-ce que je suis aimé? Et on peut dire que peut-être les blessures les plus profondes, c'est de ne pas se sentir aimé. C'est là où l'Évangile vient comme une bonne nouvelle. Et le Christ vient dire à chacun, mais dis-toi que tu es aimé. Qui que tu sois, quel que soit le jugement que les autres peuvent porter sur toi ou que tu peux porter sur toi-même à certains jours, dis-toi que tu es aimé. Laisse-toi aimer. Si tu es aimé, à ton tour, tu es invité à aimer. Je crois que c'est là le cœur de l'Évangile. Et donc, pour moi, l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, c'est fondamentalement être d'abord habité soi-même par cette conviction et cette expérience qu'on est aimé, mais c'est aussi témoigner de cela. Et je crois qu'on ne peut pas témoigner de cet amour de Dieu sans que cet amour ne prenne visage, et d'abord par le témoin, et d'abord par la communauté chrétienne. Donc, ce regard d'amour, une attitude d'amour, me paraît absolument indispensable pour donner une certaine crédibilité au message, qui est justement ce message centré sur l'amour du Seigneur.
Il y a quelques semaines, vous parliez de l'anniversaire des 50 ans du Concile Vatican II, et vous citiez Paul VI qui disait « Mais le Concile tout entier se résume dans cette conclusion, il n'est pas autre chose qu'un appel pressant qui convie l'humanité à retrouver ce Dieu dont on a pu dire « habiter en lui, c'est vivre ».
Je crois que c'est pas simplement, un souvenir du passé que nous tournent ces paroles de Paul VI. Je crois qu'il nous montre quelle doit être aujourd'hui l'attitude fondamentale de l'Église. Et ça rejoint ce que le pape Benoît XVI nous a dit dans les rencontres que nous avons pu avoir, les évêques des 5 provinces de France, cette semaine avec lui. Nous avons eu 3 quarts d'heure d'échange avec le pape à partir de questions. Et le pape n'avait pas eu préalablement ces questions, il y a répondu. Et ce qui m'a frappé, c'est combien le pape est habité par la question de Dieu, par la conviction que c'est l'accueil de la révélation de l'amour de Dieu qui est véritablement source de vie.
Maintenant que vous terminez cette visite ad limina, éminence, quel a été le plus beau moment pour vous de cette semaine ?
Je crois que le plus beau moment pour moi, ça a été cette rencontre personnelle avec le pape. Pour moi, il y a 4 mots qui caractérisent un peu ce temps fort et la perception que nous avons eue du Saint-Père. D'abord, c'est la fragilité. Fragilité, on le sent, liée à l'âge. En même temps, simplicité. Il s'est situé, comme un évêque au milieu de ses frères évêques. En même temps, c'est le mot de spiritualité. C'est un homme de Dieu. On le sent habité par cette expérience spirituelle, de cette approche de Dieu, de cette méditation sur la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Il en témoigne et on le sent d'ailleurs habité par ça. Et puis, le dernier mot, c'est le mot d'acuité, acuité intellectuelle. J'allais dire, aucune question ne lui fait peur. Il les prend comme elles arrivent. Elles ne lui ont pas été présentées à l'avance. Et il dit comment il se situe, quelles sont ses convictions. Il fait aussi référence à son expérience. Il nous a dit, quand j'étais archevêque de Munich, moi aussi, j'ai rencontré ces problèmes-là, etc.
Éminence, vous allez revenir à Bordeaux et des nombreux défis continuent de vous attendre. Il y a le problème de la laïcité, il y a le problème du mariage entre personnes du même sexe et d'autres défis. Quels sont ceux qui aujourd'hui, sur lesquels vous aimeriez dire une parole ?
Je crois que tous ces défis se présentent à nous et donc il nous faut les affronter à la fois sereinement et en même temps sérieusement. Il y a la question, bien sûr, du mariage homosexuel. Je crois que là, ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est pas simplement le fait d'ouvrir le mariage à une autre catégorie qui serait celle des personnes du même sexe. Si on fait cela, en fait, on ne fait pas couvrir le mariage, mais on le transforme radicalement, dans la mesure où la société s'est toujours intéressée au mariage, pas simplement, pour donner une base à un lien affectif, mais parce que ce lien affectif d'un homme et d'une femme, c'était la constitution d'une famille, était ouvert sur des enfants à naître. Et toute une filiation aussi, c'est pour ça que la société, justement, veillait de près à cette inscription sociale de cette union. Si on l'ouvre aux hommes et aux femmes du même sexe, c'est pas simplement une extension, c'est véritablement un changement de conception qui touche une des institutions fondamentales de la société. Et là, je crois que c'est quand même grave. En tout cas, ça mériterait certainement un vrai débat entre les Français avant de changer la loi sur ce point.